Raphaël, roi de Shinha, d'Arioc, roi d'Elassar, de Kedor Laomer, roi d'Elam et de Tital, roi des nations, qui firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Bircha, roi de Gomorre, contre Shinéa, roi d'Adma, et contre Shemeber, roi de Tseboïm, et contre le roi de Béla, qui est Tsoar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sittim, qui est la mer salée. 12 ans, elles avaient été asservies à Kedorlaomer, mais la 13e année, elles se révoltèrent. Et la 14e année, Kedorlaomer vint, et les rois qui étaient avec lui, ils frappèrent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, et les Susim à Ham, et les Émim à Chavé-Kiriataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'à El-Paran, qui est près du désert. Et ils retournèrent et vinrent en Mishpat, qui est Kadès, et ils frappèrent toute la contrée des Amalekites et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatsat-Son-Tamar. Et le roi de Sodome, et le roi de Gomorre, et le roi d'Atma, et le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, et Tithal, roi des nations, et Amraphel, roi de Shina, et Arioc, roi d'Elassar. 4 rois contre 5. Et la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume. Et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Et ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne. Et ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et tous les vivres et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, et son bien. Et ils s'en allèrent, car Lot habitait dans Sodome. Un homme qui était échappé vint et le rapporta à Abraham, l'Hébreu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré, l'Amorien, frère d'Eshcol et frère d'Aner. Ceux-ci étaient alliés d'Abraham. Et Abraham apprit que son frère avait été amené captif et mis en campagne, ces hommes exercés, 318 hommes, nés dans la maison, dans sa maison, et poursuivis les rois jusqu'à Dan. Et divisa sa troupe et se jeta sur eux d'une nuit, lui et ses serviteurs, et les frappa. Et les poursuivit jusqu'à Oban, qui est à la gauche de Damas. Et il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Et comme ils s'en revenaient, après avoir frappé Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et le bénit. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très, très haut, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. Et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, Je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas, moi j'ai enrichi Abraham. Sauf seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Puisqu'ici, nous lisons au début la parole de Dieu. Nous avons lu un passage de cette vie d'Abraham. On peut dire Abraham, même si dans ce contexte ici, c'est Abraham encore, parce que selon le chapitre 17, Dieu change son nom à Abraham. Mais si on lit le Nouveau Testament ne fait jamais cette distinction. Si Dieu parle dans le Nouveau Testament des premiers pas de cette histoire au début ou plus tard, le Nouveau Testament dit toujours Abraham. Alors, on peut le dire, même si dans le contexte du changement, certainement, ça donne une certaine signification. Alors, l'histoire d'Abraham est intéressante. Si on regarde une chose, peut-être la chose la plus visible, un événement le plus grand qui existait ici sur la terre, la création. Dieu parle, un verset. Genèse 1, verset 1. Si on veut ajouter encore ce que j'appelle ou je dis, c'est la restauration après la chute de Satan, probablement, c'est un chapitre. Si on regarde un autre événement où nous voyons encore aujourd'hui les résultats, le déluge, avec cette histoire liée avec ce déluge, avec Noé, chapitre 6 à 9, 4 chapitres seulement. Je dis, on voit encore aujourd'hui les résultats parce que les grandes montagnes qu'on a en France, ou en Suisse, ou dans les Himalayas, ces montagnes ne sont pas créées par Dieu comme cela. On peut voir que ce sont les résultats de déluge. Alors, 4 chapitres pour un événement si grand, avec autant des conséquences. Et alors, on regarde Abraham, la personne que plus ou moins personne aujourd'hui connaît encore. Certainement, il y a encore quelques-uns qui savent que Israël, c'est Jacob qui était changé en Israël, son père Isaac, son père Abraham, mais la plupart ne connaissent rien. Mais Dieu. Et Dieu parle de cette personne du chapitre 12, même chapitre 11, verset 27, jusqu'à chapitre 25. Alors, 14 chapitres. Ça montre comment Dieu voit des choses. L'homme regarde des choses qui sont extérieurement grandes, qui sont fascinantes pour nos yeux. Et certainement, la création, c'est pas rien. C'est une grande œuvre de Dieu qu'il utilise même pour nous montrer des choses célestes, spirituelles. Et il revient toujours à cette création, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, même dans l'Apocalypse. Mais ce qu'il compte vraiment comme une chose importante, c'est la vie d'un homme avec lui. Il décrit beaucoup plus sur ce qu'il est moralement important que sur des choses qui sont extérieurement intéressantes. Et cela est montré par le récit sur un roi. Ce récit a trois parties, en fait, dans l'Ancien Testament, dans ce livre de Genèse. Nous avons lu la fin de la première partie de ce récit. Chapitre 15 commence avec « Après ces choses ». Et c'est une nouvelle partie de sa vie. Les premiers trois chapitres nous montrent le chemin extérieur, pour ainsi dire, d'Abraham. La vie que nous pouvons voir de dehors, pour ainsi dire. On peut dire que c'est la vie d'Abraham objectivement. On peut regarder comment il a vécu, où il est allé, où il a marché, ce qu'il a fait, ce qu'on a pu voir. Et ça nous montre que Dieu donne ou Dieu souligne l'importance de nos chemins qu'on peut voir extérieurement. Dans ces trois chapitres, on voit les lieux où Abraham était. Mésopotamie, Ur, Charan, Canaan, les différents lieux à Canaan, après Égypte, après encore une fois Canaan, dans différentes places. Alors, ça nous montre nos chemins qu'on peut voir extérieurement sont importantes. Ces stations sont importantes pour Dieu et aussi alors pour nous. Qu'est-ce qu'on peut voir de moi extérieurement? Est-ce qu'on peut voir, comme avec Abraham, la foi, la confiance en Dieu? Est-ce qu'on peut voir que nous avons un autel et la tente, chapitre 12, chapitre 13? Est-ce qu'on peut voir que nous vivons avec Dieu, avec le Seigneur? On peut voir cela. Et ces choses sont décrites dans ces trois chapitres. À partir du chapitre 15 jusqu'à chapitre 21, on voit plutôt la vie d'Abraham dans son cœur, intérieurement. Ça veut dire les leçons que Dieu a à apprendre, à enseigner, que Dieu enseigne à Abraham pour sa vie intérieure. Ça commence ici, quand chapitre 15, Dieu parle à Abraham, « Ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Dieu regarde dans le cœur d'Abraham et voit une certaine peur, crainte. Et Dieu réagit. Ça veut dire pour Dieu, ce n'est pas seulement important ce que nous faisons, ce que nous disons, nos actions, mais il regarde aussi dans nos cœurs, dans nos consciences, dans notre intérieur. Et en fait, chapitre 15 à 21, c'est plus dans le montant des versets, si on veut, que les trois premiers chapitres. Ça montre Dieu te voit dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes craintes, dans les choses que tu recherches intérieurement, dans des soucis que tu as dans ta vie. Il le voit et te soutient, peut-être t'avertit ou t'exhorte, mais il voit l'intérieur de nos vies. C'est vrai, aujourd'hui, on peut dire que c'est la vie d'Abraham subjectivement. Ce n'est plus ce qu'on peut voir extérieurement toujours, mais ce que se passe dans sa vie intérieurement. C'est vrai, aujourd'hui, on a passé du temps de la vie objective à la vie subjective. Tout est subjectif. Tout ce qui compte, c'est comment je me trouve, Est-ce que je suis à l'aise intérieurement, etc. Aujourd'hui, on souligne presque tout, seulement ce côté-là. Et nous voyons que Dieu souligne ce côté-là aussi. Mais il ne commence pas avec cela. Il commence avec notre chemin extérieur. Et alors, il y a une troisième partie, chapitre 22 à 25. Et ça commence encore une fois par cette expression que nous avons trouvée aussi dans le chapitre 15. Et il arriva après ces choses. Une troisième partie. Pour moi, la plus précieuse, en fait. C'est dans quatre chapitres que Dieu nous montre son conseil éternel. Non, on ne peut pas dire éternel, mais son conseil qu'il a eu envers Christ. Ça commence par l'œuvre de Christ sur la croix, chapitre 22. Ça continue avec Israël, Sarah était meurt, alors Israël est mis de côté. Ce chapitre, par exemple, est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que ce sont les conseils Dieu éternels, parce qu'Israël n'appartient pas à ces conseils éternels. C'est terrestre. Alors, Israël est mis de côté. Chapitre 24, c'est où nous trouvons que Dieu cherche, ou Abraham cherche pour Isaac une femme. C'est Dieu qui a formé par les croyants, par sa famille, comme Rebecca a dû venir de la famille d'Abraham, Dieu forme de sa famille une épouse pour son fils Christ, pour le Seigneur. Et chapitre 25, c'est encore une fois sur la terre. En fait, les chapitres parlent de la terre. Ça veut dire les conseils comme on peut les voir dans la terre, dans les témoignages ici sur la terre. L'assemblée sur la terre, pour ainsi dire, qui marche dans le désert jusqu'à ce qu'elle arrive à ce point où le Seigneur va la chercher. La croix qui était sur la terre, le Seigneur qui est ressuscité sur la terre, c'est chapitre 22. Chapitre 25 qui nous montre la bénédiction de millénium où Abraham a donné toutes ses possessions à Isaac et à les enfants de cette femme Keturah. Alors, ça montre que Dieu a mis tout dans les mains de son fils Isaac, Christ, qui va régner ici sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs, qui va posséder tout et quand même donner ses bénédictions à Israël et aussi à toutes les nations. Dernier mot sur cette structure. Cette structure nous montre que Genèse n'est pas écrit chronologiquement. Il est très clair que Keturah n'était pas mariée par Abraham après chapitre 24. On voit dans Romains 4 que le corps, pas seulement de Sarah, mais aussi d'Abraham, était mort. Et pour à cause de cela, c'était une intervention divine de le donner Isaac comme fils. Alors, il est très clair que les enfants avec Keturah étaient nés avant la naissance d'Isaac. Mais pour nous donner cette image, Dieu place ce chapitre tout à la fin, chapitre 25. De cette histoire. Ça nous montre aussi dans d'autres chapitres de la vie d'Abraham et des autres, on ne peut pas penser que Dieu nous montre les choses chronologiquement. Seulement s'il met un mot qui fait clair, c'est après. Le temps après. les choses se sont que les choses arriveront un après l'autre. Encore une autre remarque, tous les trois parties de la vie d'Abraham finissent, sont conclues par quelque chose qui prophétiquement parle du millénaire. Chapitre 14, nous avons lu cela avec Melchizedek, qui parle du temps de millénaire. Chapitre 21, où Isaac est né, où nous voyons que Abraham est vu par ce Philistin comme un prince, comme quelqu'un qui a une certaine autorité. Ça parle aussi de millénium, et certainement chapitre 25 clairement parle de millénium. Je reviens sur le chapitre 14, et la première partie de ce chapitre, jusqu'à verset 12, nous montre le caractère du monde. Alors, certainement, cette partie est déjà tout le chapitre 14, un chapitre de prophétie. Ça nous montre vraiment le temps de la fin. Il y a les guerres sur la terre. Ce sont les guerres qui vont être réalité après que le Seigneur nous a cherchés pour être dans le ciel. Ces guerres entre les différentes parties de cette terre, on voit les cinq rois. Un de ces cinq était roi sur Sodome et Gomorrhe. Ou même, oui. Il parle de cette association qui va être formé autour d'Israël, avec Israël. Israël, avec ce roi, ce faux roi, l'Antichrist, et au milieu de ce royaume, pour ainsi dire, de Sodome et Gomorrhe, il y a un résidu juif, Lot, qui est, pour ainsi dire, dans cette prison, où, comme on a lu dans le verset 12, ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, et son bien, et s'en allèrent. Alors, ça nous montre alors ces guerres ici sur la terre, et que Dieu va intervenir par Christ, qui est montré peut-être ici par Abraham, qui va sauver Lot, qui va sauver ce résidu juif. Et Abraham, dans ce type, pour ainsi dire, change, et Christ sera vu certainement par Melchizedek plus tard, qui sera ce roi et ce sacrificateur en même temps, comme nous allons voir encore, pour être vraiment pour la bénédiction de son peuple et même les nations autour d'eux. C'est la prophétie. Mais ces premiers 12 versets nous montrent aussi la situation aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons ces hommes de force. Nous avons ces associations comme on voit avec le NATO, on dit NATO, OTAN, ok, comme OTAN pour l'association de l'Ouest, la Russie avec ses alliés, etc. C'est exactement ce que nous trouvons aujourd'hui. Et pour être plus fort, ce n'est pas des nations isolées, mais ils forment des associations comme OTAN et d'autres associations. Mais toujours, on voit une chose. Si vous regardez le verset 1 et comparez le verset 1 avec le verset 4 et plus tard avec le verset 9, on voit une différence. Premier verset, ça commence par Amraphel, après Darioc, après seulement Kedorlaomer. Plus tard, on voit, verset 4, la tête de ces quatre, c'était Kedorlaomer. Et clairement, on voit dans le verset 9, contre Kedorlaomer. Ça veut dire, on a toujours dans ces associations une personne, une nation qui est à la tête, qui veut être le plus fort. Exactement comme aujourd'hui, il y a l'association de l'Est, mais c'est la Russie, c'est Poutine. On a l'association de l'Ouest, mais certainement aujourd'hui c'est les États-Unis, c'est Trump qui prend la tête. Les autres essaient d'être un peu comme lui, mais à la fin, c'est lui qui décide des choses. Alors, c'est toujours la même chose. L'homme aime être plus fort, mais à la fin, il y a une personne qui dit ce qui va être fait. Et les autres, ils suivent ou non, essaient d'être comparables, mais ils ne sont pas. Il y a une personne qui est le plus fort. Pas seulement cela, on voit ce que ceux qui n'ont pas la force, qui ne sont pas assez forts, ce qu'ils font. Pour un certain temps, ils se soumis à cette force. Mais après un certain temps, verset 4, il y a une révolte. Ils se révoltèrent. Voilà. L'homme n'est jamais content à avoir une place sous une autre autorité. Après un certain temps où il accepte cela, il va être quelqu'un qui veut révolter et il le fasse. Il le fait. Et c'est aujourd'hui aussi. On voit ceux qui acceptent le rôle d'une certaine tête, mais après un certain temps, ils veulent être eux-mêmes à la tête. Et le résultat, c'est le conflit. Le péché dans le cœur de chacun, qui est caractérisé par la jalousie, ça conduit à révolter. Et il y a des conflits. Des conflits dans les familles, des conflits dans des régions, des conflits dans les nations, des conflits dans ce monde. Est-ce que nous connaissons la même chose aussi comme croyants? Est-ce qu'il y a ceux qui veulent être les premiers, comme Kedorlaomer? Est-ce qu'il y a ceux qui ne veulent plus se soumettre? Et certainement, pour nous, ce n'est pas une question de se soumettre sous une personne, mais l'attitude de vouloir être obéissant ou de vouloir se révolter. On le connaît dans nos familles, n'est-ce pas? Il y a toujours le danger qu'il y a un ou plusieurs enfants qui veulent se révolter contre l'autorité. L'homme le fait aussi contre les gouvernements dans votre pays. On voit autant des démonstrations, etc. Et c'est dans nos cœurs de se soumettre, de vouloir être obéissant, c'est pas une qualité cherchée aujourd'hui. Et j'ai peur que c'est la même chose pour nous aujourd'hui comme croyants. Alors on voit aussi dans le verset 10 qui est plus ou moins toujours, il me semble, la cause de ces guerres. On a vu, et la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume. Il est toujours une question des ressources qu'on veut avoir. Des ressources pour être plus riche, pour pouvoir faire quelque chose. Si on regarde aujourd'hui, la guerre, Iran, etc., Ça n'a rien à faire avec le territoire des États-Unis ou d'Europe ou n'importe quoi d'Israël. Ça a à faire avec pouvoir, avec domination, pouvoir, et aussi avec des ressources d'huile, par exemple, etc. Et ça, on voit ici. Mais on voit ici aussi que dans cette guerre, on voit que les rois de Sodome et Gomorrhe s'enfuirent et ils tombèrent dans ces puits de bitume. Ça veut dire les choses qu'on poursuit sont en même temps les choses qui nous font tomber. On cherche quelque chose et par cet amour pour l'argent, par exemple, c'est en même temps notre chute, la cause de nos chutes, de l'homme en général et de nous aussi, n'est-ce pas? Alors pour moi, ces premiers versets montrent vraiment comme un miroir de la société générale aujourd'hui. Mais il faut se poser la question aussi de mon cœur, peut-être de ma vie, peut-être de notre vie. Verset 12 est vraiment triste. Ils prirent aussi Lot. Lot, je crois, est mentionné ici plus ou moins la 10e fois dans ces récits. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu prendre Lot? Chapitre 13 montre, verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. S'il était maintenant déjà dans cette ville, peut-être, on ne sait pas. Au moins, on voit que la position qu'il a prise, la position qu'il a choisie, était la raison pour laquelle il était maintenant en prison. C'est vraiment un avertissement pour nous. La position que je choisis avec Dieu comme Abraham me fait étranger. Je suis hors de ces conflits. Ou est-ce que je me mélange dans ces conflits? Est-ce que je cherche quelque chose dans ce monde? Si je cherche le monde, si je cherche une position dans ce monde, si je cherche des choses de ce monde, je vais perdre avec ce monde. Et c'est ce que nous trouvons ici avec Lot. Il a choisi, il a cherché quelque chose de ce monde. Et alors, par cela, il a perdu tout. Tout. Sa vie était sauvée, pour ainsi dire. Mais moralement, etc., il a perdu tout. Quelle est ma position? Est-ce que je suis séparé de ce monde, extérieurement, mais aussi intérieurement? Aussi avec mes motivations mobiles, mes buts, le caractère de ma vie, ce que je cherche, etc., de ce monde. Mais verset 13 nous montre une chose très encourageante. Un homme qui était échappé vint et rapporta à Abraham, l'Hébreu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré. Un homme qui était séparé, un homme qui a vécu pour Dieu, où Dieu l'a placé. Il n'a pas cherché quelque chose ce monde. Et Abraham apprit que son frère avait été amené captif. C'est bien qu'il y a ceux qui sont des messagers pour les croyants, pour leur dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas Abraham qui était détective pour regarder où est mon neveu maintenant. Chapitre 13 montre que Lot n'était pas vraiment, vraiment respectueux contre envers Abraham. Ce n'était pas Lot qui a eu le droit de choisir, c'était Abraham, son oncle, probablement plus âgé, certainement celui qui avait la foi, celui qui était le conducteur, et il a pu dire, qu'est-ce que fait ce Lot? Elle a pu regarder de proche, toujours envoyer, pour ainsi dire, quelqu'un pour dire, pour regarder qu'est-ce qu'elle fait. Mais c'est pas notre responsabilité du tout. C'est pas quelque chose que nous devons faire. Et Abraham n'a pas fait cela. Mais il y avait quelqu'un qui était échappé et intéressant. Échappé, ça veut dire, elle était de ceux qui ont vécu à Sodome. Et pourquoi est-ce que cet homme est allé à Abraham et pas un roi ou n'importe qui? Il est intéressant, Abraham, on ne voit aucun autre temps où Abraham a été comme un soldat, qu'il a eu une réputation d'être capable de faire une guerre contre une autre nation. Mais cet homme a su, si quelqu'un peut aider, c'est Abraham. Et je me pose la question, est-ce que quelqu'un qui voit un croyant, peut-être faible, tomber, est-ce qu'il va venir vers moi parce qu'il sait, et je ne parle pas d'un don, mais parce qu'il sait, c'est quelqu'un qui vit avec le Seigneur qui peut aider? Ou est-ce que parmi nous, personne est connu comme celui qui vit avec le Seigneur et par cela, parce qu'elle est séparée de ce monde, elle peut aider? Ce n'était pas Lot dans le monde qui a pu aider Abraham, mais c'était Abraham séparé du monde qui a pu aider Lot. Il faut vraiment se rappeler cela, que de faire des choses ensemble, en communion avec le monde, ne va jamais être en aide, une aide. Mais d'être séparé du monde, extérieurement et intérieurement, ça nous donne le courage, la force, la spiritualité pour être une aide pour ceux qui sont amenés captifs dans ce monde. Et bien vers Abraham. Et Abraham apprit que son frère avait été amené captif et mit en campagne ses hommes exercés, 318 hommes, nés dans sa maison et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Ça nous montre que Abraham avait dans son cœur été libre, avait cette volonté et aussi cette capacité de sauver Lot. Comme j'ai dit, on n'a jamais lu qu'avant, il était quelqu'un qui avait succès dans une guerre ou quoi. Mais il a eu des hommes exercés, juste 318. C'est rien. Donc, je suis très sûr contre ces quatre rois avec leurs armées. Certainement, ces quatre hommes avec leurs armées, ce n'étaient pas des grandes armées. Ils étaient tous plus ou moins en Israël, qui étaient de petits royaumes seulement. Mais certainement, ils avaient eu plus que 318 hommes. C'est un peu comme avec Gédéon, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question des nombres. C'est une question de la vie, de communion avec Dieu. Ce n'est pas les rassemblements les plus grands qui sont les plus forts. Ce sont ces rassemblements qui sont caractérisés par la communion pratique journalière avec le Seigneur. Et c'est Abraham. C'est beau de voir qu'Abraham ne dit pas « Lot, je t'ai montré comment vivre. Tu as voulu y aller. Maintenant, c'est le résultat de ta vie, de tes décisions. C'est pas ma responsabilité, c'est pas mon guerre, comme les politiciens disent aujourd'hui. C'est ton problème. » Non, Lot avait à cœur, ce n'est pas parce que c'était son neveu, mais parce que c'était un croyant, pour ainsi dire. Tu entends qu'un croyant tombe. Tu entends qu'un croyant est sur un chemin qui n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Disons, comme ici, peut-être, c'est sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va agir comme Dieu l'a fait? Si on regarde juge, c'est toujours que le peuple était responsable pour ses faillites, pour ses années difficiles de servitude. Mais est-ce que Dieu a dit, parce que vous étiez désobéissants, je vous laisse dans vos problèmes? Non, Dieu a agi, il a envoyé des prophètes, il a donné des sauveurs, des juges, pour restaurer ce peuple. Quelle est mon attitude envers mon frère? On oublie souvent, premièrement, l'amour et la grâce de Dieu envers moi pour me sauver, qui était beaucoup plus grande que la grâce et l'amour que je dois utiliser, montrer envers mon frère. Deuxièmement, combien de fois moi, je suis tombé dans ma vie comme croyant et le Seigneur m'a restauré. Il faut le savoir, il faut être conscient, n'est-ce pas? Psaume 23, verset 3, que Dieu, l'Éternel, le berger, c'est lui qui nous restaure. C'est parce que lui agit, nous avons cette occasion d'être restaurés. C'est jamais par nous même que nous sommes restaurés. C'est toujours par lui et que par lui. Mais quand même, on était restaurés dans des situations, dans des problèmes, dans des chutes. Peut-être ce n'est pas toujours comme Abraham et comme Lot ici, mais combien de fois on s'est éloigné du Seigneur et c'est lui qui nous a ramenés encore une fois. Alors, suivons ce pas d'Abraham avec 318 hommes. Ce n'est pas notre force. On n'est jamais capable de sauver, de restaurer quelqu'un. Mais Dieu veut nous utiliser comme il a utilisé Abraham. Abraham, j'en suis sûr, avec ses 300 hommes, n'était pas capable d'avoir ce succès, cette victoire. Mais c'était Dieu qui a montré qu'il était à son côté. Et par lui, il a pu libérer son neveu. Il est bien aussi de voir, Abraham n'a pas dit « Je suis l'homme de foi, je vais le faire. » Il a pris ceux qu'il a connus. Il est dit ici, des hommes qui étaient nés dans sa maison. Ça veut dire ils étaient autour de lui. Il a connu ces hommes, il a vu leur vie, il a vu leur dévouement. « Je ne peux pas servir. » On le voit avec Paul, n'est-ce pas, et Jean-Marc. Je ne peux pas servir avec quelqu'un qui n'a pas dans son cœur ce dévouement, cet exercice, cette conséquence pour le Seigneur. Mais certainement, je peux le dire seulement, c'est dans mon cœur, ces attitudes, ces qualités sont vraies. Sinon, comment est-ce que je peux juger une autre personne? Et moi, je ne suis pas équilibré pour le Seigneur et dévoué pour le Seigneur dans ma vie. Le résultat, verset 16, il ramena tout le bien et ramena aussi Lot, son frère, et son bien. Pour lui, c'était son frère. Pas seulement qui était dans le monde mondaine ou qui était tombé, c'est son frère. C'est son bon frère, nos sœurs. Est-ce que nous avons un cœur de sauver, d'aider nos frères et sœurs? Et comme ils sont revenus après avoir frappé, qui doit le Rome et les rois, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavée. On peut être sûr, si nous avons rapporté une victoire spirituelle dans notre vie, peut-être si on a aidé quelqu'un, Satan est devant la porte, certainement. Il a beaucoup à nous offrir. Personne ne doit penser que Satan n'a rien à offrir. Il peut offrir beaucoup de choses, très attractives pour notre chair. Et nous avons la chair en nous, chacun. Alors, il faut veiller. Mais ici, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. C'est Dieu. C'était le roi de Sodome qui était devant la porte. Aussi ici, par ailleurs, à mon avis, il me semble que ça montre que tant ne joue pas de rôle ici. Sodome c'était fini avec Sodome, le roi, etc. Comment est-ce qu'on trouve ici un nouvel roi? Probablement, il a passé un certain temps entre le verset 12 et le verset 17. Mais Dieu le met ensemble pour nous enseigner une leçon spirituelle. Qu'après une victoire, il y a toujours un danger. N'est-ce pas, c'est ce que l'apôtre Paul dit avec cette défense, Éphésiens 6, où il dit, Éphésiens 6, verset 13, sur l'armure, Éphésiens 6, verset 16. « C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, en les difficultés, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, accompli, dans le temps de succès, tenir ferme. Le temps après le succès, après on a tout surmonté, c'est le temps le plus dangereux parce qu'on pense maintenant tout est bien. Et non. Il faut fermer les portes contre l'ennemi. Et ici, dans le chapitre 14 de Genèse, on voit combien Dieu vient pour nous aider. Ici, verset 18, « Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu très haut. » Et il bénit et dit, béni soit Abraham de par le Dieu très haut, possesseur des cieux de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Nous voyons que Dieu envoie Antichrist. Christ qui est vu ici comme sacrificateur et roi. En Israël, ce n'était pas possible. Soit sacrificateur, descendant de Lévi, d'Aaron, soit roi, descendant de Juda. Mais ici, nous voyons quelqu'un qui était roi et sacrificateur en même temps. C'est Christ. Et que Christ. Et les sacrificateurs pour nous aider dans nos circonstances difficiles. Et les sacrificateurs, pour nous bénir de la part de Dieu. Et il est roi en même temps parce qu'il veut nous montrer qu'il a une autorité sur nos vies. Comme Abraham lui donne la dîme de tout. Et là, il a le droit de recevoir tout de nous. De Abraham, c'était le dîme. Mais dans l'Ancien Testament, si nous lisons d'une part de quelque chose, la part est pour, symbolise le tout. Ça veut dire, par exemple, quand l'Israélite était circoncis, on a coupé un petit peu de l'homme pour le jeter. Et Dieu montre par cela que tout l'homme doit être jeté, doit être jugé. Quand, avec le dîme, on voit que Dieu a voulu avoir 10% de l'Israélite. Et par cela, Dieu veut dire, nous sommes complètement la possession de Dieu. Alors, on voit que Melchizedek, le Seigneur, comme sacrificateur et comme roi. Il va être cela dans le millénium. Parce que Melchizedek veut dire, le mot veut dire roi de justice. C'est la première fois qu'on va avoir un règne, un gouvernement de justice totale, absolue, 100%. Aujourd'hui, dans nos pays, il y a une certaine justice. Mais avec le Seigneur, ça sera complet, ça sera parfait. Mais en même temps, comme Hébreux 7 nous montre, il est roi de Salem. Et ça veut dire il est roi de paix. Alors, le Seigneur donne pas seulement un règne, un gouvernement de justice, mais en même temps de paix. Pour l'homme, on ne peut pas mettre ensemble justice et paix. C'est que par la croix de notre Seigneur. Et on lit dans les psaumes, dans le psaume 85, où il est dit, verset 11 de ma version, « La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. » Pour l'homme, c'est impossible, mais sur le fondement de la croix, paix et justice vont ensemble. C'est qu'en Christ que c'est possible. Et comme Isaïe dit, dans le millénium, il sera la justice qui va régner, et en même temps la paix. C'est lui qui agit toujours d'après la parole de Dieu, c'est justice. C'est en accord avec la révélation de Dieu que nous avons dans la parole. Et en même temps, il va agir toujours pour introduire la paix, pas seulement dans nos cœurs, mais aussi au milieu de ses croyants dans le millénium sur la terre. Ici, on trouve qu'il apporte du pain et du vin. Du pain, c'est la nourriture. Il va donner une nourriture complète. Par le Seigneur, il veut que nous sommes nourris par lui. Et c'est par cette nourriture, c'est par la parole, parce que la parole parle du Seigneur, que nos cœurs sont nourris et nous sommes capables de résister. Un cœur qui est plein du Seigneur, plein de la parole, plein de ce pain, pour ainsi dire, du ciel, il ne cherche pas d'autre chose. Il a tout en Christ. Et il donne aussi ce vin, comme il est dit ici, du pain et du vin. Vin parle de la joie. Quelqu'un qui est nourri par Christ et ne cherche pas la joie dans le monde, il n'a pas besoin Satan et tout ce qu'il peut nous offrir, parce qu'il a la joie dans le Seigneur. Il n'a pas besoin d'autre joie que cette joie qu'on trouve dans la personne de notre Seigneur. C'est la peine de réfléchir plus sur cet homme. Je donne seulement dans Psaume 110 cette référence. Je crois, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que ce psaume est le psaume qui est, c'est le verset dans l'Ancien Testament qui est cité dans le Nouveau Testament le plus. Et dans le psaume 110, qui est écrit par David, il est dit, verset 4, « L'Éternel a juré et ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Ça veut dire, et c'est répété dans Hébreu 7 et d'autres passages, ça nous montre que le Seigneur va rester sacrificateur éternellement. Par ce verset, on a une claire promesse que le Seigneur va rester homme. Ce n'est pas une nécessité en elle-même que le Seigneur reste homme. Déjà, quand il est allé dans le ciel, il a pu arrêter, pour ainsi dire, avec son humanité, parce que ce n'était plus nécessaire pour accomplir l'œuvre qui était accomplie. Mais il reste homme. Et ici, nous voyons qu'il reste homme à toujours, éternellement. Et deuxièmement, il reste serviteur éternellement. On a la même chose dans Exode 21, avec serviteur hébreu. Mais ici, on voit qu'il reste ce sacrificateur de bénédiction. Ça veut dire ce gouvernement de bénédiction par Melchizedek, ça veut dire par le Seigneur, va continuer éternellement pour nous les hommes, l'assemblée et les hommes sur la terre, à toujours pain et vin, nourriture pour nos spirituels, joie pour nos spirituels. Ça va rester éternellement. Et alors, le roi de son nom peut venir. Il offre et veut quelque chose. Comme Satan veut toujours les âmes, donne-moi les personnes. Oui, les âmes. Satan veut avoir les âmes. Aujourd'hui, hier, et jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Même dans la tribulation, jusqu'à ce qu'il sera amené captif par le Seigneur. Alors, il cherche les âmes. Et on voit, on sent cela très, très fortement aujourd'hui. Mais il peut prendre seulement les âmes qui s'ouvrent au Satan. Et Abraham est quelqu'un qui rejette cela complètement. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux rien avoir de toi. Rien du tout. Pas un tout petit peu. Si on commence à donner des compromis, à décider de faire des compromis, c'est la fin. Et Abraham était clair dès le début, rien du tout. Mais, pour moi, il est très intéressant. Sauf seulement ce que qu'ont mangé ces jeunes gens de la part des hommes qui sont allés avec moi à Ner Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Il faut avoir foi pour soi-même. Je ne peux pas décider pour ceux avec qui je vis, avec qui je sers, avec qui je suis ensemble. Chacun peut et doit décider pour soi-même. Pour Abraham, c'était très clair. Pour moi, rien. Mais eux sont eux. Et ils peuvent décider pour eux-mêmes. On ne voit pas du tout s'ils ont pris quelque chose. Mais on voit qu'Abraham ne décide pas pour les autres. Certainement, j'ai encore des enfants à la maison. Je décide beaucoup des choses pour eux. Mais s'ils sont adultes, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes de faire des décisions. J'espère qu'ils ont appris dans ma maison qu'il faut faire des décisions avec le Seigneur. Est-ce qu'ils ont appris cela dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos rassemblements? Et après, c'est à eux. Mais il dit, eux, ils prendront leur part. Ce n'est pas une question de recevoir quelque chose, c'est une décision. Ils prennent ou pas. Et c'est ma décision aussi. Est-ce que je prends quelque chose de ce monde? De ce monde qui est sous cette direction de Satan? Ou est-ce que je rejette cela? Ça reste ma décision. Et cette décision, ce n'est pas tout à fait une fois pour tout. Mais les offres de Satan vont être répétées, sans doute. Est-ce qu'on va rester comme Abraham, clair et conséquent pour dire non? Ici, vraiment, un chapitre actuel, un chapitre qui parle du futur et un chapitre qui parle de la personne de notre Seigneur. Celui qui, comme Melchizedek, comme il est dit dans le chapitre Hébreux 7, sans début, sans fin, éternel et quand même homme, même sacrificateur, même serviteur pour nous bénir éternellement.
Et verset 3.
Amen.